Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Quand ils ont pris les armes, lui a pris ses pinceaux. Un peintre de génie qui prenait la paix dans un pays, la France, où il n'était qu'un étranger. Un artiste qui a fini par s'engager à sa manière, sans faire son service militaire. Stéphane Bern nous raconte Pablo Picasso.
Nous sommes en 1895 à Barcelone. Pablo Picasso a 14 ans et déjà un sacré coup de crayon. Il réalise à l'encre une scène de bataille, c'est son nom. Puis une représentation de deux soldats à cheval griffonnés sur un cahier d'école. Ceci témoigne-t-il d'un attrait pour la chose militaire? On se permettra d'en douter. La guerre, Picasso, ça n'a pas l'air de lui plaire. Puisque quand vient le moment en 1899 de faire son service militaire, il n'est pas très motivé. Il faut dire que le dernier conflit qu'a connu l'Espagne, un an auparavant contre les États-Unis, vient de voir s'envoler dans la déroute les dernières miettes d'un empire colonial agonisant. La guerre pour la défaite, à quoi bon? Pour lui, la guerre est de toute façon toujours une défaite. Pablo Picasso n'est pas anti-patriotique, il est anti-militariste. Alors, lorsqu'il est appelé sous les drapeaux, il préfère décliner. C'est simple, à l'époque, il suffit juste de payer. Cela tombe bien, la famille Picasso a de quoi régler la note. C'est son oncle, médecin réputé, qui s'en acquitte. La guerre des canons et des fusils n'intéresse pas Picasso. Il a mieux à faire avec l'art, qui est et restera son unique arme tout au long de son existence, qui traversera les conflits d'un XXe siècle belliqueux et destructeur. Cette année 1899, Picasso, tout juste majeur, vit dans le bouillonnement artistique de Barcelone et lorsqu'une de ses toiles est choisie pour être exposée au pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris, il en profite pour prendre le large. Picasso fait d'ailleurs plusieurs séjours dans la capitale avant de s'installer définitivement à Paris en 1904. Il rejoint la communauté catalane qui s'ébroue dans la bohème de Montmartre, le repère du petit peuple, des prostituées, des brigands, des artistes et tout ce que la ville compte de transgressif. Dans ce petit monde, surveillé de près par la préfecture de police, l'artiste se retrouve vite fiché. Étranger, ami avec des anarchistes, il n'en fallait pas plus pour ouvrir son dossier qui porte le numéro 64664 et qui le suivra toute sa vie. Dans ce dossier, il y est notamment inscrit noir et blanc qu'en 1914, quand le premier conflit mondial éclate, Picasso n'a pas participé à l'effort de guerre. Sa nationalité espagnole, pays neutre, l'empêchait en effet d'être automatiquement mobilisé. Et il a vécu le conflit comme par procuration, échangeant avec ses amis Braque, Léger ou Apollinaire, lui aussi étranger, parti au front. Certains le traiteront même de planqué, passant le conflit à l'abri des obus, travaillant à ses toiles ou de somptueux décors pour les ballets russes. Car Picasso est avant tout un artiste qui ne peut s'empêcher de créer. Après ces périodes bleues et roses au début du siècle, il ouvre de nouvelles voies à la peinture avec ses fameuses Demoiselles d'Avignon en 1907 et le développement révolutionnaire du cubisme aux côtés de son ami Georges Braque dans les années qui suivent. Picasso est à l'avant-garde et il le sait. Un ténor qui donne une note plus haute que celle de la partition « Moi », comme il l'écrit dans l'un de ses carnets. Malgré le drame du séquestre de ses œuvres pendant la guerre, son galeriste était allemand, et leur dilapidation après le conflit, sa cote augmente et la renommée arrive enfin. Dans les années 20 et 30, Picasso devient célèbre et respecté partout, de l'Europe aux États-Unis, partout sauf en France. Il y jouit bien sûr d'une notoriété dans un milieu initié, mais il ne reçoit pas vraiment les honneurs des institutions, qu'il s'agisse des musées ou de l'administration. Car oui, alors qu'il vit en France depuis 35 ans, il possède des propriétés, il a établi femmes et enfants. La nationalité française lui est refusée la seule fois où il en a fait la demande, en 1940. La guerre, encore une, a commencé et il ne fait pas bon être étranger dans la France qui parque les ressortissants des pays ennemis dans des camps, même si l'Espagne ne fait pas partie des belligérants. Le 3 avril 1940, Picasso demande officiellement sa naturalisation auprès du garde des Sceaux. Il connaît du monde, jouit de nombreux appuis. L'affaire devrait être entendue rapidement. Le premier rapport du commissariat du 8e arrondissement, où il réside, donne son accord, presque avec enthousiasme. Mais les renseignements généraux sont missionnés pour avis supplétif. La conclusion est sans appel. Cet étranger n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation. D'ailleurs, il doit être considéré comme très suspect au point de vue national. Un officier zélé a relu tout le dossier. Le soi-disant anarchisme du début du siècle, la guerre de 14, loin du front, le soutien aux républicains espagnols pendant la guerre civile qui déchira son pays d'origine, ses accointances communistes. Picasso est suspect. Ajoutez à cela qu'il a été classé par les nazis dans la case des artistes dégénérés, qu'il est célèbre pour avoir en 1937 manifesté sa haine de la caste militaire et du fascisme dans son immense toile intitulée Guernica, en hommage à l'un des villages basques ruinés par les bombardiers allemands et italiens alliés du général Franco. Et Picasso est presque un paria. Riche et célèbre, certes, mais condamné à rester un étranger dans le pays où il vit depuis si longtemps. Picasso passe la guerre confiné à peindre dans son atelier parisien. Mais il va changer. Car s'il a toujours fait preuve d'une certaine discrétion, voire d'une timidité dans l'engagement politique, en permanence refroidi par son statut d'étranger, si l'art lui a toujours permis de se tenir à distance des contingences du monde, à la sortie du conflit, il est désormais un combattant. À sa manière, bien sûr. Déjà, les années 30 et la montée du fascisme l'avaient poussé à s'impliquer. La guerre civile qui ravage l'Espagne entre 1936 et 1939 le blesse profondément et il joue de toute sa notoriété et de sa richesse pour soutenir discrètement les républicains, ceux exilés en France ou combattants en Espagne. Ses dessins « Songe et mort de Franco » ou son immense tableau « Guernica » avaient déjà illustré ce qu'il dira lui-même en 1945. Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Et le véritable ennemi, c'est la guerre. Je suis pour la vie contre la mort. Je suis pour la paix contre la guerre, clame-t-il. Dès la libération, Picasso adhère au Parti communiste, auquel il restera fidèle malgré l'histoire que l'on connaît et les contradictions apparentes d'un millionnaire socialiste. Il y voit toujours le meilleur moyen de prôner un pacifisme qu'il a chevillé au corps. En août 1948, Picasso se rend au Congrès mondial des intellectuels pour la paix de Wroclaw, en Pologne. Et l'année suivante, alors que se tient un nouveau congrès pour la paix à Paris, il dessine, à la demande de son ami Aragon, l'affiche représentant une colombe qui deviendra pour longtemps le symbole du pacifisme. Son engagement pour la paix est désormais une permanence, l'immuabilité d'une conscience politique, en contraste avec l'agitation esthétique, l'hétérogénéité et le foisonnement de sa production artistique, une production vaste qu'il est bien compliqué de définir, tant elle ne se fait pas dans une linéaire continuité. Après avoir révolutionné la peinture et ouvert d'immenses brèches au début de sa carrière, la suite ne sera que retours et avancées, sauts extrêmes dans une liberté qui crée un tout. Picasso est une forme de mouvement perpétuel, avait dit le critique André Varnaud en 1925, et le travail de l'artiste jusqu'à sa mort en 1973 lui donne raison. Une mort qui arrive malheureusement avant celle du général Franco et le rétablissement de la démocratie en Espagne que Picasso appelait de ses vœux pour rentrer un jour dans son pays. C'est donc en France, mais éternellement étranger, qu'il termine sa vie, puisqu'il a refusé la nationalité que les autorités lui avaient finalement octroyée. Mais faute de citoyenneté, une reconnaissance de son art est peut-être encore un plus grand honneur quand il fut, en 1971, le premier artiste exposé au musée du Louvre de son vivant. Cela vaut bien toutes les cartes d'identité du monde.